Les grands événements du Collège de France.
Mesdames, messieurs, nous sommes réunis pour la dernière conférence de la Comédie française au Collège de France sur théâtre et pouvoir. Elle réunit l'administrateur général de la Comédie française.
Bonsoir.
Et un professeur du Collège de France.
Bonsoir.
Qui sont en quelque sorte sur ce thème et en ces lieux, chacun est réciproquement l'invité et l'invitant de l'autre. Éric Ruff, comédien, metteur en scène, scénographe, sociétaire honoraire de la Comédie française et administrateur général de la Comédie française, dont la mise en scène du Soulier de Satin cette saison a été saluée par une pluie de Molière bien méritée qui nous a tous mis en joie, est notre hôte dans cette série de conférences, une, deux ou trois voix, à laquelle j'ai déjà eu le plaisir de participer. Tu y as accueilli, Éric, des artistes de la Maison de Molière et quatre professeurs du Collège de France. Patrick Boucheron, historien, est le cinquième, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire urbaine de l'Italie médiévale et renaissante, sur l'historiographie du récit national. Vous connaissez son Histoire mondiale de la France, qu'il a dirigée au Seuil, parue en 2017 et qui a été traduite dans plusieurs langues et qui a eu un très grand écho. Parce que Patrick Boucheron s'intéresse au pouvoir dans l'histoire, certes, mais aussi au pouvoir de l'histoire, selon la manière dont on la raconte, il a accepté la responsabilité de coécrire, en tant qu'auteur, le scénario de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous l'avez fait, Patrick, en homme de théâtre, vous qui aviez conçu des spectacles et qui avez noué des partenariats, par exemple, avec le Théâtre National de Bretagne ou avec le Grand T de Nantes. Éric Ruff et Patrick Boucheron l'expérimentent dans leur pratique. Les pouvoirs sont présents à tous les niveaux de la production du théâtre. Depuis les conditions politiques de son existence, contrôlées au sein de la cité par le pouvoir, jusqu'à sa fonction esthétique, les pouvoirs de l'illusion, on le trouve aussi, le pouvoir, dans les relations de pouvoir sociales et intersubjectives entre les acteurs de la création et dans la littérature dramatique elle-même, qui, en représentant toutes les formes de pouvoir à l'œuvre dans les relations humaines, nous aide à les concevoir. Ces quatre formes du pouvoir au théâtre sont donc tour à tour politique, hiérarchique, thématique, esthétique. C'est dans cet ordre que nous allons les aborder ce soir. Et je commence donc par le premier. Politique, le premier de ces pouvoirs est celui de l'État. Le pouvoir a, ou a eu dans l'histoire, la prérogative d'autoriser ou pas l'ouverture des théâtres, d'en prononcer la fermeture administrative, d'interdire même l'exercice de cet art pour des raisons politiques ou religieuses, de contrôler les répertoires, d'exercer une censure sur des œuvres jugées attentatoires à la morale publique ou à la sûreté de l'État, d'organiser des représentations gratis attirant le public en foule qui permettent à la nation de se donner en spectacle à elle-même, d'exalter collectivement ses valeurs. La Comédie française, d'abord théâtre royal, puis impérial, puis national, entretient depuis toujours un rapport particulier avec le pouvoir, parce qu'elle est aussi, parallèlement, depuis sa création, l'émanation d'une société des comédiens français, société privée, elle, qui s'est constituée comme telle, en société, 6 semaines après la lettre de cachet de Louis XIV, co-signée par Colbert, qui instituait la Comédie française. Et lorsque, en 1995, au terme donc d'une histoire déjà bien longue, elle est devenue EPIC, c'est-à-dire établissement public à caractère industriel et commercial, ce modèle mixte n'a pas été remis en cause. D'où ma première question à toi, Éric. En tant qu'administrateur général de cette EPIC, quelles sont tes obligations vis-à-vis de l'État entre les pouvoirs de la tutelle, d'un côté, et puis les pouvoirs de la Société des comédiens français représentés au comité d'administration par leur doyen, quelle est ta marge de manœuvre et ta position ?
On n'est pas pris exactement dans le même étau. Moi, en tant qu'administrateur général, je représente l'EPIC et je suis censé appliquer les missions qui me sont données par l'État. Alors, il y a une mission au décret qui est le rayonnement de la Comédie française et la présentation de son répertoire dans une acception très, très, très large. Et puis, il y a des missions, j'allais dire, plus contemporaines qui sont données dans une sorte de feuille de route que je reçois. Quand je la reçois à peu près chaque année, et sur lequel les missions, c'est des missions de démocratisation, de parité, de renouvellement du public, de diversité du public. Voilà, c'est des missions qu'on épouse sans aucun problème. Mais je n'ai pas. On pense toujours que le pouvoir peut être intrusif dans le sens d'une intrusion sur la programmation ou sur l'organisation. Depuis que je suis à la Comédie française, depuis 32 ans, je ne l'ai jamais remarqué. Alors, j'étais peut-être très naïf au début et peu au courant de tout ça, mais c'est pas là que ça se passe. Les problèmes que je peux avoir, moi, avec le pouvoir, c'est assez paradoxalement la non-utilisation de ce pouvoir-là, ou d'une manière assez paradoxale, c'est-à-dire qu'on me donne des missions et une fois qu'elles sont données, on ne les vérifie pas à tel point que j'ai l'impression que ça n'était pas une mission. Et que surtout, le travail qui nous est demandé de faire, la plupart du temps, on le porte par essence, on le porte parce qu'on est d'accord avec ces principes-là, parce que la chose publique, le théâtre public nous importe, on le cultive évidemment, donc on épouse ces missions et assez régulièrement, on les réussit. Je parle de la Comédie française, mais je me permets de parler aussi pour plein d'autres lieux qui épousent les mêmes missions. Généralement, le boulot est fait, il est généralement très bien fait, avec des résultats, et que la tutelle qui nous demande ces résultats ne s'en sert pas, voire s'en désintéresse. Alors, ça fait 11 ans que je suis administrateur, je suis à mon 8e ministre. Est-ce qu'il a supposé aussi qu'il y a un problème tout bêtement de politique culturelle, de savoir que je vous donne une mission, je vous laisse des années pour la mettre en œuvre et puis je mets des jalons critiques, ou je ne sais pas comment dire ça, pour essayer de voir comment ils peuvent être plus pertinents. Les gens changent, généralement personnalisent un peu leur prise de pouvoir au sein d'un ministère et les choses essentielles se dilatent un petit peu. Vis-à-vis des comédiens français, c'est un peu différent, vous l'avez dit, Florent, quand c'est passé en EPIC, finalement la société est restée là, et presque pas dans un angle mort, mais dans un arrangement un peu tacite. En fait, les rapports entre le pouvoir d'État et la société des comédiens français, l'un est respectueux de l'histoire de l'autre, et l'autre craint un peu le pouvoir du premier. Voilà. Donc ça se regarde un petit peu en chien de faïence, et que de temps en temps même, on ne regarde pas exactement ce qui est écrit, ce qui détermine potentiellement ces rapports. On est un peu dans une mythologie, mais finalement qui marche pas mal. Hein. Y a un indistinct à la Comédie française, ne serait-ce que sur la propriété, sur le patrimoine. Y a des trésors de patrimoine à la Comédie française, et on a mis très très longtemps à essayer de déterminer un sexe des anges, à savoir qu'est-ce qui appartient à l'EPIC, donc à l'État, et qu'est-ce qui appartient à la Société des comédiens français. Sachant que le jour où la Société des comédiens français veut partir avec le Voltaire de Houdon, je lui souhaite bien du courage pour le soulever et pour en revendiquer la propriété. Donc c'est une chose qui est finalement pas très très concrète, mais qui fait que il y a effectivement au comité d'administration de la Comédie française, élargi avec les tutelles qui sont donc le ministère de la Culture et celui des Finances, majoritairement ce sont les acteurs qui ont la majorité. Ce sont les acteurs, donc c'est pas des personnes éclairées, comme on dit, extérieures à la Comédie française. Ce sont vraiment ceux qui y travaillent. Et moi, stratégiquement, je travaille, ce que je trouve très intéressant, avec des gens qui ne sont pas du tout dans un rythme politique ou administratif. Qui sont des gens qui sont plutôt à même de comprendre ce qu'est la longueur d'un changement sur un public, ce qu'instille une programmation petit à petit, voilà, tous ces délais-là. Donc, dans la méconnaissance de l'un et de l'autre, dans le fait que ça se regarde un peu en presse-livre, finalement, ça se déroule pas mal. Et que le vote positif ou l'abstention des comédiens pour certaines personnes de la tutelle, ça les touche beaucoup. Ça n'a aucun pouvoir, mais le fait qu'ils se déterminent et que ce soit les sociétaires de cette maison, avec ce qu'ils portent de symbolique, d'histoire et de talent, peut les inquiéter à un endroit où, généralement, les politiques savent très bien déterminer ce qui est très inquiétant ou ce qui ne l'est pas du tout. Mmh. Et là, c'est bizarrement, ils le sont quand même.
Oui, oui. Patrick, j'aimerais bien parler avec vous de l'évolution un peu du rapport de l'État aux affaires culturelles en général et au théâtre en particulier. Il y a eu cette époque où la Comédie française a été créée, où le roi lui-même, déjà avant, dansait devant sa cour, donc était vraiment très impliqué personnellement dans les affaires de l'art théâtral. Et puis, toute une période longue où la censure s'exerçait sur le théâtre, ce qui était un signe aussi d'intérêt, finalement. Nous, évidemment, rétrospectivement, on peut avoir tendance à considérer que c'est un pouvoir abusif que celui de la censure, mais c'était aussi un pouvoir qui était légitime pendant assez longtemps, sur des affaires de morale publique ou de sûreté de l'État, avec aussi des moments où le pouvoir pouvait refuser d'exercer un abus. Je pense, par exemple, au moment où, pendant le scandale des paravents en 1966, donc à l'Odéon, où la pièce de Genet, qui était une pièce qui très satirique à l'égard à la fois de la France, de l'armée française, de la colonisation française, et aussi de tous les personnages, y compris la famille arabe de la pièce, qui est sympathique, mais qui en prend aussi pour son grade. Et il y a eu ce scandale qui est bien connu, puisque d'abord des groupes d'extrême droite sont venus perturber les représentations à l'Odéon, et puis l'affaire a été portée à la Chambre, où on a demandé au ministre, donc Malraux, de légiférer, c'est-à-dire de couper la subvention à Jean-Louis Barrault, qui était directeur de l'Odéon. Et vous aimez bien, je crois, ce discours de Malraux, donc peut-être je peux lire quelques extraits, si vous voulez le commenter peut-être après, et nous dire aussi si, de nos jours, il vous semble que l'intérêt que l'État porte à la culture s'est amoindri ou pas depuis cette époque-là. Donc c'est le discours de Malraux à l'Assemblée nationale le 27 octobre 1966, après que des députés donc de droite extrême lui ont demandé de supprimer la subvention à Jean-Louis Barrault, ce qu'il ne veut pas faire, et qui lui ont dit que Genet n'était pas Baudelaire. La liberté, mesdames, messieurs, n'a pas toujours les mains propres, mais quand elle n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder à deux fois. Il s'agit d'un théâtre subventionné, dites-vous. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Si nous étions vraiment en face d'une pièce anti-française, un problème assez sérieux se poserait. Or, quiconque a lu cette pièce sait très bien qu'elle n'est pas anti-française. Elle est anti-humaine, elle est anti-tout. Genet n'est pas plus anti-français que Goya anti-espagnol. Par conséquent, le véritable problème qui se pose ici, c'est celui, comme vous l'avez appelé, de la pourriture. Mais là encore, mesdames, messieurs, allons lentement, car avec des citations, on peut tout faire. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, c'est de la pourriture. Une charogne, ce n'est pas un titre qui plaisait beaucoup au procureur général, sans parler de Madame Bovary. Ce que vous appelez de la pourriture n'est pas un accident, c'est ce au nom de quoi on a toujours arrêté ceux qu'on arrêtait. Je ne prétends nullement, je n'ai d'ailleurs pas à le prétendre, que M. Genet soit Baudelaire. S'il était Baudelaire, on ne le saurait pas. La preuve, c'est qu'on ne savait pas que Baudelaire était un génie. Ce qui est certain, c'est que l'argument invoqué « cela blesse ma sensibilité, on doit donc l'interdire » est un argument déraisonnable. L'argument raisonnable est le suivant. « Cette pièce blesse votre sensibilité. N'allez pas acheter votre place au contrôle. On joue d'autres choses ailleurs. Il n'y a pas d'obligation. Nous ne sommes pas à la radio ou à la télévision.
» Oui, il y a deux manières de comprendre ce beau discours. La première serait nostalgique. Tu parlais effectivement des nombreux ministres et ministres qui se sont succédés. Là, évidemment, il y a quelque chose qu'on entend, qu'on peut entendre encore aujourd'hui et qui résonne non seulement comme un ode implacable et courageux, parce qu'à ce moment-là, vous dites député de droite et d'extrême droite, en fait, il s'adresse à sa propre majorité. C'est toute la majorité gaulliste dont il est évidemment issu, André Malraux, qui défend non seulement l'interdiction d'une pièce, les paravents de Genève, mais la suppression de la subvention, de la fameuse subvention à un théâtre qu'on appelle le théâtre de l'Odéon, au théâtre de l'Europe, mais qui est ça. À ce moment-là, ça s'appelait le Théâtre de France, donc, qui est évidemment au motif que c'était la France qui était dans son essence et dans son ambition blessée par la prose de Genet. Et il dit quelque chose qui, d'une certaine manière, ne s'adresse pas simplement au pouvoir, comme s'il n'y en avait qu'un, mais au pouvoir au pluriel, puisque effectivement, moi, c'est la pluralisation des pouvoirs dont je tente d'être l'historien. Il n'y a pas que le pouvoir qui veuille interdire une œuvre au motif qu'elle blesse sa sensibilité. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les pouvoirs de la société qui sont, d'une certaine manière, qui mettent en demeure les artistes et celles et ceux qui veulent les défendre politiquement, comme toi à la Comédie-Française, d'appliquer ou en fait d'ajuster les choix de répertoire à cette fameuse sensibilité. Ce qu'il faut comprendre quand même dans ce discours, c'est que pourquoi ça fait scandale les paravents, on pourrait en parler pendant des heures. C'est parce qu'à ce moment-là, cette pièce d'avant-garde d'un auteur contemporain vivant est jouée dans un théâtre public. Nous, il nous paraît évident que le théâtre public défende en France la création et que le théâtre privé eh bien, recherche des profits plus directs. Mais c'était l'inverse. Au début, après-guerre, Samuel Beckett n'a jamais été joué dans pendant très longtemps dans un théâtre public. C'était le théâtre privé qui innovait, et le scandale des paravents en 1966, c'est qu'on mette de la création dans un théâtre public. Ce qui fait bien, effectivement, écho à ce que tu disais. Qu'est-ce que tu as dit ? Je représente l'épique. Tu entends ce que tu dis des fois ? Je représente l'épique. C'est-à-dire que derrière le langage administratif, il y a évidemment toute l'histoire du théâtre et de sa représentation. Je représente l'épique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement qu'il y a cette histoire longue du théâtre, dont évidemment, tu en occupes les lieux et tu en occupes la langue de Molière. Partout, effectivement, on va dire, ça nous oblige, mais également, ça nous engage, et d'une certaine manière, ça nous contraint. Et là, on est dans un théâtre national, comme l'Odéon. Là encore, cette histoire, qui est l'histoire longue, vous avez raison, de cette censure d'État, qui, d'une certaine manière, survit encore sous l'épique, avec un C, l'actualisation de son institution. Elle survit parce que c'est la couche mythologique, d'une certaine manière. Et c'est avec ça que tu as affaire, sans doute, lorsque tu parles à d'autres ministres qu'André Malraux. C'est-à-dire, effectivement, faire vibrer en sous-couche, si j'ose dire, cette écorce encore vivante d'un théâtre d'État d'avant. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, le théâtre public. D'abord, il faudrait distinguer les différentes institutions. On pourrait distinguer entre les quelques théâtres nationaux, le théâtre, les CDN, les scènes nationales. Enfin, chacune a ses obligations, ses contraintes. Même parmi les CDN, par exemple, il n'y a pas deux théâtres publics en France qui ont une égale vulnérabilité, si j'ose dire, à leur billetterie. Certains sont très dépendants de leur billetterie, d'autres très dépendants de la subvention. Et au fond, c'est un... Alors là, pour le coup, à part toi qui as affaire à le pouvoir d'État, la plupart des théâtres publics en France ont affaire au pouvoir au pluriel, et justement au pouvoir dans l'injonction contradictoire de leur réglementation. Alors moi, j'ai été je siège à quelques CA, notamment le théâtre de la Colline, théâtre national. Mais par exemple, il y a des injonctions contradictoires. On nous demande de évidemment de rajeunir le public. Donc quand on rajeunit le public, on a un prix moyen du billet qui baisse. Ah oui. Et après, on nous dit « Ah, mais vous avez un prix du moyen du billet qui baisse. » Oui, car, voyez-vous, nous avons rajeuni les publics. Mmh. Donc, en fait, c'est sans fin. Mais il faut imaginer Sisyphe heureux, paraît-il. Mmh. Ça va ?
Ça va très bien, je me reconnais absolument là-dedans. Je crois avoir dit ici que j'ai demandé une fois à la tutelle de faire une seule réunion, parce que généralement il y a la réunion du mardi où on demande de faire baisser justement ce prix moyen pour que les plus jeunes puissent accéder à la Comédie Française, et la réunion du vendredi où on me demande d'augmenter les ressources propres. Mmh. Et donc je demande toujours, est-ce qu'on pourra faire une seule le mercredi où on se met tous ensemble autour de cette contradiction.
Effectivement. Ça c'est l'exemple le plus simple, mais il y en a plein d'autres, ouais. En fait. C'est constant, en fait. Mmh. Ok, donc ça va.
Oui, ça va.
Patrick, vous aimez dire « les lieux sont plus forts que nous ». Alors, pour ce qui concerne la Comédie Française, qui est un projet d'ancien régime, est-ce que vous avez des clés pour comprendre comment elle a pu survivre à sa démocratisation ?
Et comment elle survit très bien la démocratisation.
Et endosser aussi l'utopie d'après-guerre, hein, d'un théâtre national populaire, hein, parce qu'il y a quand même des points communs maintenant entre la Comédie Française et l'utopie réalisée, hein, d'un théâtre national populaire.
Hein. Oui, vous avez vous avez tout à fait raison de l'histoire du théâtre. Je suis nullement spécialiste, vous l'êtes, pas moi. J'ai lu par exemple le livre d'Emmanuel Loyer qui dit combien le Festival d'Avignon est le théâtre populaire théorisé par Jean Villard et notre utopie d'après-guerre. Mm-hmm. Tout le nom même des théâtres, théâtre de l'Europe, théâtre des nations, montre au fond l'exorbitante responsabilité politique qui pèse sur le théâtre public d'après-guerre de faire la paix entre les nations et à l'intérieur de la société. Et dès lors, effectivement, on est très très loin de cette représentation du pouvoir dont vous parlez. Voilà, le roi danse, c'est Louis XIV, il a dansé à 15 ans, à 30 ans, il avait déjà arrêté de danser. Et donc la représentation, c'est extraordinaire de voir comment, et j'aimerais savoir comment tu t'en débrouilles, effectivement, sinon par ce coup d'éclat du soulier de satin qui met d'une certaine manière en jeu et à l'épreuve ce principe même de la représentation d'Ancien Régime, finalement, à la Comédie Française, de toute façon, on est ramené, en fait, à cette histoire qui fut une histoire très brève. Que celle de la monarchie Louis XIV, qui est évidemment éclatante, mais très brève, qui très vite a connu, et c'est ça qui est tout à fait frappant, je dirais, ces contre-pouvoirs, à l'intérieur même du système de la représentation. Par exemple, ce que vous décrivez, Florence, c'est d'une certaine manière la recherche de la frappe des esprits par l'éclat unanime des consentements. Voilà. C'est-à-dire le choc cornélien, où on va, d'une certaine manière, frapper les esprits comme on frappe la monnaie, c'est-à-dire par un coup de majesté. Bon, voilà. Donc ça, on peut dire, le XIVe siècle, le XVIIe siècle, c'est ça. Le siècle de Louis XIV, c'est ça. Mais il y a aussi, ça a été montré dans des études de Tiphaine Guyot, notamment sur le corps racinien, une manière, effectivement, d'émouvoir sans éblouir, ou en tout cas ne pas prendre le pouvoir sur la représentation par justement cette forme de violence plus douce que provoque justement par exemple le théâtre de Molière. Donc c'est avec tout ça qu'il faut jouer, c'est-à-dire ces souvenirs mêlés et contradictoires, historiques sans doute, qui ne se ramènent pas à la magnificence Louis XIVienne.
Mmh. Je n'ai pas le sentiment, moi, que le public pointe ce point de départ de la royauté. Il y a une confusion qui se fait. On est la preuve, d'ailleurs, Académie française, Comédie française. Voilà, il y a beaucoup de gens Encore une fois, ma maman m'a félicité d'être entré à l'Académie française et j'avais 23 ans. Mais cette espèce d'erreur phonétique fait que dans l'esprit des spectateurs, il y a quelque chose de très ancien, avec ce que ça peut avoir de réjouissant, de réconfortant, et puis de ce que ça peut avoir de fondement aussi. Ensuite, moi, ça m'a toujours intéressé, cette chose-là, parce que en France, il y a beaucoup de lieux qui sont consacrés à l'histoire, mais qu'à l'histoire, qui ne sont jamais réveillés par le présent. On cumule des œuvres, on les explique au mieux. Et puis, il y a quelques endroits qui sont uniquement dédiés aux contemporains, aux nouvelles technologies, etc. La Comédie française est un lieu qui est traversé par les deux. C'est ça que je trouve très, très, très intéressant. Le fait que Mission nous ait donné de travailler cette image ancienne en essayant de faire entrer toutes les esthétiques. Moi, j'estime que j'ai pas à les juger, j'ai à les faire traverser, d'essayer de réveiller tous ces thèmes-là qui sont toujours d'actualité. Encore une fois, si c'est des classiques, c'est que l'équation est toujours vivante à l'intérieur de ces œuvres-là, et de faire en sorte que des jeunes personnes ou des artistes actuellement, une Elsa Grana qui sur Une mouette et pas La mouette décide de revisiter ce qui peut la déranger dans la vision d'une femme chez Tchekhov ou dans la tradition de représentation, d'ailleurs je ne suis même pas sûr que ce soit Tchekhov qui pense ça, mais plutôt la tradition de représentation de Tchekhov et de cette pièce et de ce rôle d'Arkadina, ou de Thiago Rodriguez qui décide donc de partir des cubes pour mieux raconter une histoire et un besoin irrépressible de justice sur un fait contemporain. Voilà, c'est deux manières de faire. Ces deux manières-là, moi, il m'intéresse beaucoup qu'elles soient... J'ai toujours l'impression que la chimie est plus intéressante à partir du moment où, oui, il y a une cothurne d'un côté et puis une chaussure beaucoup plus contemporaine de l'autre. Ce que j'essaye de faire, moi, pour le coup, c'est de ne pas réserver une salle à de l'expérimentation, à des ovnis, et puis que l'autre salle, de par ses pampilles, son rouge et ses rondeurs, soit uniquement une représentation incessante des mêmes modes et des mêmes thèmes. Voilà.
Puis peut-être au passage dire qu'une des manières de démythologiser son histoire, c'est simplement de l'écrire, et que pour l'écrire, il faut des archives, il faut les connaître, et que c'était aussi, enfin, sans doute, tu en avais parlé dans des précédentes séances, mais enfin, la manière dont la Comédie française s'est emparée de ses archives, les registres de la Comédie française et les programmes de recherche universitaires, mais pas seulement en rapport, effectivement, entre ce beau rapport entre la recherche et la création que suscite ce genre d'initiative, je pense que c'est une réponse aussi.
Oui, mais les acteurs, notamment, et les actrices et les metteuses et metteurs en scène qu'on dit maison, c'est assez beau pour nous parce que tout a été fait. Je veux dire, on ne peut jamais avoir la naïveté de se dire on va inventer quelque chose. Parce qu'on arrive, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant. À la Comédie française, on sait ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas un rôle du répertoire qu'on reprend sans que quelqu'un nous dise « tu sais qu'il a joué avant », etc. Donc... Ce ciel un peu empesé, comme ça, d'art et de livres, sert finalement à se libérer de pas mal de choses. Moi, je trouve ça plus intéressant de savoir ce qui a été fait et de ne pas avoir l'illusion que, ne sachant rien, on va tout inventer.
Et c'est pas écrasant.
Hein ?
C'est pas écrasant.
Non, c'est pas écrasant. C'est pas écrasant. C'est... Moi, je trouve ça libérateur. Non, ça n'est pas écrasant. Alors il y a des choses qu'on... Par exemple, la bibliothèque-musée de la Comédie française, elle est plus visitée par des chercheurs, des universitaires, que par les actrices et les acteurs de la Comédie française. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a deux manières de voir Molière à la Comédie française. Il y a le Molière qui est colloqué, qui est fouillé, répertorié, abondé. Et puis il y a celui des acteurs... Il est totalement fantasmé, celui-ci, mais il y a quand même des acteurs dont il a été le premier. Il était sur le plateau, il jouait des rôles avec ses partenaires, et que nous sommes à la 546e, je crois, sociétaire de la maison depuis Molière, c'est Daniel Lebrun, et que oui, ça n'a jamais arrêté de se passer des trucs entre acteurs. Et que cette pratique-là, elle vient de Molière. Finalement, on préfère ne rien savoir pour laisser vivre cette figure peut-être un peu plus... un peu plus libre. D'ailleurs, la figure de Molière, on s'était amusé au 400e anniversaire en 2022. J'avais demandé à Agathe Songian, qui était à la tête de la bibliothèque à ce moment-là, de me trouver 60 portraits de Molière, que ce soit dans les gravures, dans les peintures, dans les bustes. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc déjà, en soi, la figure est totalement fantasmée. Et personne n'est bien sûr de savoir est-ce que c'est vraiment celui qu'il y a dans mon bureau qui serait peint de son vivant, donc le plus, mais personne n'est capable de le dire.
Oui. Et on peut peut-être...
S'il est dans ton bureau, c'est le bon.
Ah, évidemment. C'est une copie. Il n'est pas que dans mon bureau.
On peut peut-être en venir justement aux relations de pouvoir à l'intérieur d'une si grande entreprise que la Comédie Française, qui comprend 400 salariés, je crois, c'est ça à peu près, et qui évidemment est régie par certains pouvoirs qui sont formalisés, qui viennent des règlements, qui viennent du droit du travail, qui viennent de l'organigramme, et puis d'autres qui sont informels, qui sont régis plutôt par les usages ou par le charisme de certains, la soumission volontaire d'autres. Et je voulais te demander justement, toi qui y es entré comme pensionnaire il y a une trentaine d'années et qui y a mené des réformes, est-ce que tu as vu les relations de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise bouger ? Est-ce qu'il y a la même hiérarchie que par le passé ? Est-ce que, je ne sais pas, dans le rapport, j'y pense parce qu'il y a le dernier numéro de la revue d'histoire du théâtre qui vient de paraître, qui s'intitule « Voix d'or et petites mains » sur l'historiographie des femmes dans l'histoire du théâtre, et où on a fait un entretien entre Elsa Lepoivre et Valérie Merlin, son habilleuse, et Rouquette, donc son habilleuse, expliquait que les relations ont un peu changé quand même entre les grandes dames qu'elle habillait jadis quand elle est entrée, et puis les rapports quand même un petit peu plus proches qu'elle a, moins hiérarchiques, disons, qu'elle a aujourd'hui avec les très grandes actrices qu'elle a le privilège d'habiller.
Oui, ça a changé. Moi, je n'ai pas connu ça, et je me dis presque ce que c'est une chose fantasmée, ça aussi, en fait, qu'il y aurait des ascenseurs pour les sociétaires dans lesquels un pensionnaire ne pouvait jamais rentrer, qu'il y avait vraiment des lieux réservés. J'y crois pas. Il me semble que la manière, l'organisation du pouvoir à la Comédie Française a suivi les mœurs du temps. Et que ça s'est libéré pas par une grande révolution à l'intérieur avec des grands combats, etc. Il y a des choses qui ne sont plus permises tout simplement et qui ont changé. Et ce qui est intéressant dans cette maison, c'est que les pouvoirs sont très fantasmés, extrêmement fantasmés. Et finalement, on adore s'accrocher à cette idée-là plutôt que d'aller regarder dans les registres historiques ou d'aller regarder simplement dans le cadre de ce qui est dit, de l'organisation du travail, des pouvoirs des uns et des autres. On va pas regarder ça. La troupe, par exemple, entretient et elle a besoin sans doute de ça, le fantasme qu'on lui a ôté du pouvoir. Parce que du temps de Molière, c'est les sociétaires qui décidaient de la programmation, qui décidaient du partage, voilà, des gains de la représentation, de la programmation, etc. Et puis maintenant, non, ils n'ont plus ce pouvoir-là. Je peux leur demander ce qu'ils en pensent, je peux leur demander de me proposer des choses, mais c'est moi qui fais la programmation. Et en même temps, ils ont gagné beaucoup d'autres pouvoirs, mais qu'ils n'enregistrent pas comme étant un pouvoir, parce qu'ils préfèrent dire « on en a perdu, il faut se défendre ». Voilà. Mais j'aime beaucoup, moi, qu'il y ait des acteurs. Alors, je suis un exemple contradictoire, parce que je suis acteur et puis je suis à la tête de cette maison. Mais la plupart des acteurs refusent, d'une certaine manière, de lire une liasse budgétaire, alors qu'ils sont interrogés dessus et qu'ils ont pouvoir éventuel de ne pas voter un budget. Mais non seulement ce n'est pas leur école, évidemment, et puis ils ont le sentiment, qui n'est pas faux, qu'il faut ralentir la chose administrative, qu'il faut ralentir l'empilement des injonctions contradictoires. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec une sociétaire et je lui ai dit « Ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais tu as un point de vue assez romantique sur ce problème qu'on est en train de traiter. » Et elle m'a dit « Je sais, Eric, mais c'est mon rôle. Tu es dans l'objectif, je comprends très bien ce que tu dis, mais comprends que moi, je ne veuille pas rentrer dans ces logiques-là. Et même si elles te paraissent romantiques, parce parce que tu ne peux pas les mettre en œuvre. C'est comme une sorte de frein. Lorsque j'étais sociétaire, j'ai changé un peu de point de vue, mais lorsque j'étais sociétaire, j'étais très souvent en comité et j'avais trouvé une image en me disant mais le comité, il sert de paquet d'algues autour du gouvernail. Il a besoin de ralentir le gouvernail. Parce que le jour où on est face à quelqu'un qui dit « je vais ici là, je vais ici là, je vais ici là », voilà, qui façaille dans tous les sens, le fait de l'obliger à réfléchir, de l'obliger à développer des qualités de pédagogie, de communication de ce qu'il veut faire, finalement est assez efficace. Mais il y a dans cette maison une chose qui est organisée, puis une autre chose à côté qui n'est pas organisée, mais qui est la distribution des loges. Par exemple, il y a une quarantaine de loges à la Comédie-Française, dont certaines à deux fenêtres et d'autres à une fenêtre. Les pensionnaires sont à deux. C'est magnifique d'ailleurs, parce que quand on arrive, on est ravis d'être à deux et ça fait des camaraderies de chambrée absolument qui peuvent durer 30-40 ans. Et ensuite, le sociétaire est condamné à la solitude. Et il y a des loges qui donnent sur des petites cours intérieures pas très intéressantes, puis d'autres loges qui donnent sur des points de vue sur Paris absolument magnifiques. Donc en fait, les loges se redistribuent quand certains partent. Voilà, donc il n'y a pas des loges qui sont envisagées en viager, je ne peux pas dire ça, mais certaines loges sont gourmandes. Et logiquement, c'est la chef habilleuse qui doit, selon la hiérarchie de l'ancienneté, pouvoir dire, ben voilà, cette demande de changement de loge, c'est ton tour à toi, parce qu'au niveau de l'ancienneté. Et il y a une autre logique, mais qui est très ancienne, et qui perturbe cette logique un peu institutionnelle, qui est une sorte de poulinage, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé 35 ans dans sa loge aime savoir qu'une jeune actrice ou un jeune acteur avec qui on a beaucoup partagé sur le théâtre, avec qui on a des accointances de pensée, de comportement, pourrait tout d'un coup investir cet endroit qui ne vous appartient pas, mais au bout de 30 ans, on peut penser que ça nous appartient, qu'on y a mis sa marque. Et voilà, cette logique-là n'est pas du tout la même. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des pouvoirs, et en même temps, il faut faire avec des contre-pouvoirs qui ne sont pas du tout établis, mais qui soulage un petit peu l'autre. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Quand je parle sur les distributions des rôles, par exemple, je dis à chaque fois aux acteurs, si j'applique les règles, vous partez toutes et tous de la Comédie-Française. Parce que vous ne pourrez plus avoir aucun congé. Parce que les pensionnaires ne sont pas censés pouvoir refuser, mais les sociétaires, oui. Bon, déjà, cette chose-là, totalement inégalitaire, elle ne peut plus, elle ne peut plus marcher. Et ils me disent tout le temps, ces congés sont insupportables parce qu'on est obligé de répéter tout le temps, parce qu'il y a des changements de rôle, c'est pas prévu, c'est pas les bonnes conditions, on respecte pas notre travail, etc. Ce sont les mêmes qui, le lendemain matin, sont dans mon bureau en me disant, j'aurais besoin d'un petit congé pour du cinéma. Mais là, c'est super important. Mais je comprends, c'est pas un paradoxe, c'est tout à fait normal. Ils défendent quelque chose de commun et à chaque fois, ils ont des velléités totalement solitaires. Mais c'est absolument normal. Ce qui fait qu'à chaque fois, je leur renvoie de dire, mais si moi j'applique les textes, vous partez. Si je laisse tout à volo, ça ne va plus exister. Donc, mis à part essayer de façon incomportable d'essayer de maintenir, de développer une conscience collective qui fait qu'il y a un moment où vous vous dites « je ne vais même pas en parler, de toute façon, je ne pourrai pas le faire ». J'évacue cette chose-là et je me concentre sur ce que j'ai à faire à la Comédie-Française. Voilà, c'est encore une fois, là, je ne peux rien marquer à la lettre. Je suis obligé de faire avec ce nuage collectif. Mais finalement, s'il est là, c'est qu'il a un grand intérêt aussi d'équilibre. Voilà.
Et sur le plateau, qui a le pouvoir ? Parce que jadis, quand il n'y avait pas de metteur en scène, c'était le régisseur et puis les acteurs un peu charismatiques qui servaient de directeur d'acteur à leurs camarades. Aujourd'hui, qu'il y a un metteur en scène, est-ce que le metteur en scène a un pouvoir absolu ou est-ce qu'il y a encore des acteurs dont l'entente de la scène est tellement influente qu'elle permet de se reposer aussi un petit peu sur eux ?
Alors, on a quitté maintenant, et fort heureusement, le metteur en scène tyran.
Oui.
Voilà, plus il hurle et plus on a l'impression qu'il a du talent. Voilà, ça c'est parti. Il est vrai que la place de la metteuse ou du metteur en scène est une place absolument énorme et acceptée par tout le monde. Mmh. Des fois d'une façon pas très raisonnable d'ailleurs. Parce que aller contre la décision d'une metteuse ou d'un metteur en scène, ça demande un protocole. Mmh. Il faut pouvoir argumenter, il faut en parler au café, il faut prendre des gants, etc. Parce que c'est lui ou elle qui décide. Ensuite, très clairement, moi je trouve que si, quand on travaille avec des gens bien, souvent le pouvoir, c'est le sens.
Oui.
C'est le talent, d'une certaine manière. Ce qui fait la différence entre trois propositions, celle de la metteuse en scène, celle de l'acteur et celle d'une personne peut-être un peu extérieure, voilà, celle qui va marcher, celle dont tout le monde reconnaît que, en fait, c'est ça. On a tous vérifié intuitivement que le sens, c'est celui-ci, empoche la mise. Voilà, d'une certaine manière. Et que... fort heureusement, il y a ça a peut-être eu, moi j'en ai jamais connu, mais j'ai l'acteur qui dit, un petit peu on dit ça de l'opéra à l'époque, les chanteurs qui disent « où je me mets ?» Voilà, que la mise en scène se réduit à la place simplement pour chanter. Ou un acteur qui dirait « écoute, c'est pas le premier Molière que je fais, je te remercie, d'accord. » Voilà. Ça n'existe pas à la Comédie française. L'intérêt de la Comédie française, c'est que Laurent Stocker, par exemple, a travaillé avec un nombre de metteuses et de metteurs en scène très intéressants, j'allais dire de renom. C'est pas le renom qui est intéressant, c'est la maîtrise qu'ils ont. Et il en est le réceptacle. Ça veut pas dire qu'il arrive à l'analyser, le synthétiser, à dire c'est ça qu'il faut faire, mais lorsqu'on bute sur une difficulté, il y a une mémoire collective. On parle de tribus, on disait la famille des Atrides, etc. Peut-être que ça existait, la droite, la gauche, etc. Maintenant, en fait, ce qui détermine les équipes à la Comédie française, c'est plutôt les aventures artistiques qu'on a traversées. Il y a ceux qui ont bossé avec Vassiliev, il y a ceux qui ont bossé avec Françon, et qui ont enregistré quelque chose de leur talent théâtral, et qui ont deux, trois bouts de solution là-dessus. Mais généralement, le pouvoir se concède, j'allais dire le pouvoir, c'est le temps, en fait, à la Comédie française. C'est ça, l'épée de Damoclès, c'est le temps. À 13h, on commence la répétition, à 17h, si à 17h moins 3, vous commencez à avoir une super idée pour l'acte 5, c'est mort, 3 minutes après, tout le monde s'arrête. On peut pas dealer cette chose-là. Donc ce qui prend le pouvoir, peut-être, c'est que l'acteur sent que l'échéance arrive, et que nous, on est tellement habitués à ça. L'absurdité du temps, c'est qu'on répète un spectacle pour le studio ou un spectacle de 2h30 à la salle Richelieu, finalement avec le même canon de temps. Sinon, au niveau de l'organisation de l'ensemble de l'alternance, on n'y arrive pas. Donc, j'ai déjà vu des spectacles dont il aurait été bon d'avoir 15 jours de plus pour quitter cet espace de clarification, pour retomber dans une chose plus obscure, une matière qu'on sent, mais on est obligé de s'arrêter un petit peu là. Et puis, voilà, Lars Norén, par exemple, il est parti avant la première, lorsqu'il faisait Poussière. Il est parti, c'est très violent. Le metteur en scène part avant la première. Généralement, c'est un clash, pas possible. J'ai déjà vu ça, mais c'est vraiment une déclaration. Et donc, comme ça se passait tellement bien et que cet homme était d'une attention extrême à tout, je lui ai posé la question et il m'a dit « Ben, j'ai envie de voir mes petites filles, qui étaient restées en Suède. Je voudrais voir mes petites filles. » Puis il me dit « Et puis là, en fait... c'est le travail des acteurs maintenant. Il me l'a dit le plus poliment possible, mais là où lui, il voulait garder, et parce que sa présence faisait ça, il voulait garder un état de jeu où tout soit possible et rien soit maîtrisé, l'acteur qui sait qu'il va jouer commence à faire des choix. Il commence à fermer des portes. Il est angoissé et dit « mais je veux savoir si c'est ça, ou si c'est ça, ou si c'est ça. » Si on lui dit « fais un peu des trois », il dit « non, je ne peux pas faire ça », il choisit. Donc en fait, Lars Norén disait « comme ce travail-là ne m'appartient plus, et d'une certaine manière est celui qui m'intéresse le moins, mais que je respecte, je les laisse et moi je vois mes petites filles.
» Et il le laisse au spectateur. Alors Patrick, vous qui êtes un spectateur très assidu, est-ce que cette phrase que disait Eric, le sens finit par emporter la mise, pas dans toutes les mises en scène, mais dans celles qui séduisent un large public, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le geste de mise en scène, parfois, le risque d'un abus de pouvoir ou d'un coup de force,
d'un coup de force.
Pour le spectateur, parce que c'est lui quand même le destinataire au bout du compte
Oui, vous avez raison, et j'en parlerai d'autant plus volontiers que je n'ai pas toujours été un spectateur assidu, que le théâtre, pour des raisons d'intimidation sociale, m'a été pendant longtemps étranger, ce que je n'aimais pas dans le théâtre. C'est effectivement cette idée que... Alors, on prend toujours le train en marche, ça, tout va bien, c'est pas grave, qu'il y ait effectivement une histoire avant nous, mais j'avais l'impression qu'il y avait... comme, vous savez, cette intimidation de la cinéphilie, l'obligation, au fond, de rentrer dans une salle, d'aller voir La Mouette, en ayant vu tant d'autres avant, et de pouvoir comparer tel ou tel metteur en scène. C'est un truc très fort, quand même. Et c'est quelque chose contre lequel, effectivement, vous parliez de la démocratisation du théâtre et de la culture d'une manière générale. Nous savons depuis longtemps maintenant combien, depuis le milieu des années 80 que ça a été documenté et mesuré, qu'on peut aller jusqu'au bout, en fait, des possibilités de la puissance publique pour rendre accessible, proche des scènes nationales, etc. Il y a le truc qui résiste, c'est ça. C'est au fond l'abus de pouvoir des femmes et des hommes de culture, mais beaucoup des hommes tout de même, qui considèrent au fond, qui ne considèrent pas que, au fond, quand on joue au théâtre, on ne devrait penser qu'à un seul spectateur, celui qui vient pour la première fois. Non. Celui qui n'a jamais été au théâtre. Qui évidemment connaît pas Claudel, bien sûr qu'il a jamais vu Tchekhov, et qui est émerveillé par les lieux qui l'environnent, et qui va tout recevoir en bloc. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important, et qui, d'une certaine manière, devrait nous vacciner contre ce que vous appelez justement les abus de pouvoir. Je pense que depuis quelques années, ce qu'on a appelé, par exemple, la querelle du théâtre politique, un peu proclamatif, un peu revendicatif. La querelle du théâtre politique, c'était quoi, il y a 4-5 ans, au Festival d'Avignon, qui, au fond, sont des fausses querelles. Ça peut se résoudre assez simplement. Jean-Luc Godard disait... c'est pas la peine de faire des films politiques, il faut faire politiquement des films. C'est une formule godardienne de base, mais qui peut effectivement servir à tout. Bah oui, il suffit de faire politiquement du théâtre. Et faire politiquement du théâtre, ça veut dire effectivement sans doute aussi se garder des... Quand même, il y a eu des abus de pouvoir, c'est vrai, Éric, du point de vue pas seulement des metteurs en scène, mais cette frappe dont je parlais, cette manière effectivement de choquer le spectateur, de le mettre en inconfort, ça a été, je ne vais pas donner de nom, mais c'est une manière très autoritaire, très virile, de s'imposer à un public qu'on voit encore au théâtre. Qu'on voit encore au théâtre, voilà. Et c'est vrai qu'il suffit d'une certaine manière d'avoir l'oreille un peu fine sur, d'ailleurs, des spectacles qui ont été encensés. Les Damnés, par exemple, pour moi, Les Damnés, franchement, de toute façon, on en avait parlé, c'est une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir sur la sensibilité des spectateurs et des spectatrices. Et j'ai le droit de dire que esthétiquement, ça m'impressionne et que politiquement, je n'aime pas ça. Et donc, la question, au fond, c'est de savoir si on peut ouvrir le problème, au fond, de la réception comme un espace politique, exactement comme la cinéphilie. Si on va au film, voir un film, c'est pour le plaisir de se disputer sur son... Et évidemment, la critique théâtrale étant ce qu'elle est, on ne peut pas dire que ça soit exactement ça. Donc, au fond, la démocratisation du théâtre, c'est-à-dire, en somme, la... prise en compte des effets induits de ce que vous appelez les abus de pouvoir sur les spectateurs, elle passe aussi par la restauration d'un espace de réception comme espace critique. C'est-à-dire, comment on discute du théâtre ? C'est pas évident, hein ? C'est pas évident parce que, en plus, c'est du... Enfin, moi, je trouve que la critique est impossible parce que c'est de l'art vivant. Alors, on va faire quoi ? Enfin, je veux dire, c'est impossible pour moi de dire du... De critiquer quelque chose qui est en train de se faire, où des actrices et des acteurs, des comédiennes, des comédiens engagent leur corps. Enfin, ça n'a pas de sens de faire ça. Mais comment faire pourtant pour que un espace public d'une critique politique du théâtre soit possible ? Ça, c'est une question, non ?
Mais ce que tu dis de la personne pour laquelle on joue, parce que c'est la première fois qu'elle vient au théâtre. On se le rappelle très souvent entre nous, les actrices et les acteurs, et c'est une belle manière de penser. Je soupçonne toujours derrière ce que tu appelles la prise de pouvoir d'un spectacle qui, par ses infrabasses, son volume, ses images, sa lumière stromboscopique, les rétroéclairages sur le public, les coups de semonce, voilà. Je soupçonne toujours derrière qu'il y a une tentative...
Ou même son implacable virtuosité. Hein.
Oui, aussi, absolument. Mais je soupçonne toujours derrière qu'il y ait comme une volonté de tri de ce public-là. Ne reste que ceux qui aiment le gros son ou qui sont à ce niveau de colère ou d'engagement. Et les autres, si vous avez mal aux oreilles, sortez. Voilà. Et que le fait de se dire il y a quelqu'un qui n'est jamais venu au théâtre est toujours, je trouve, une belle manière de penser démocratique, de comment on fait, et c'est de notre responsabilité. Et évidemment, ça n'est pas simple. On est pris aussi par des modes, par des cumuls. Mais comment on fait pour que l'ensemble des spectatrices et des spectateurs, celui qui n'est jamais venu, celui qui a déjà vu 10 fois une représentation de cette pièce-là, puisse se réunir dans une salle ? C'est une belle utopie, pour le coup.
Bien sûr.
De se dire que tous ces gens-là, qui finalement dans la vie ne se croisent pas énormément, sauf d'une façon absolument anonyme, dans la rue, prennent le temps de se sentir, s'opposent les uns à côté des autres. Ça fait très longtemps en plus que les catégories A, B, C, etc. se mélangent et qu'on fait en sorte que les gens les plus éloignés ne soient pas au paradis, mais qu'ils puissent être dans des places où tout d'un coup l'émotion d'un spectacle peut les atteindre. C'est une très belle utopie.
Et puis je suis bien conscient aussi d'ailleurs que mon argument est réversible, parce que combien de directrices et de directeurs de théâtre entendons-nous qui pestent contre les abonnés en disant « Ah là là, c'est pas... oui, enfin d'accord, très bien, mais heureusement qu'il y a aussi des fidèles. Heureusement
oui,
qu'il y a,
absolument.
On le sait bien ici, heureusement qu'il y a quand même un public constitué. Et c'est depuis, effectivement, cette loyauté d'un public averti et passionné qu'on doit travailler à l'élargir. Mais vraiment, c'est difficile. Et d'une certaine manière, on est un peu démunis. Là, on parlait de la question du rapport à la subvention, à sa justification, à sa négociation, à simplement la discussion avec les pouvoirs. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des théâtres ? Est-on vraiment sûr que... Mmh. Et alors, il y a tant de... On est un petit peu... Maintenant, on commence un peu à être à bout d'arguments, non, Eric ? Franchement.
Oui, mais... Enfin... Ils ont besoin qu'on leur donne des graphiques et des camemberts et des courbes. Je comprends très bien pourquoi. Hein. Il faut justifier de l'argent qui est donné, etc. Mais moi, j'ai toujours considéré, alors pour le coup, mais peut-être aussi parce que c'est la Comédie française. J'ai des gens qui m'écrivent et qui revendiquent 70 ans de compagnonnage de spectatrice ou de spectateur avec la Comédie française. 70 ans. Et c'est pas une lettre rare. Il y a énormément de gens qui sont là depuis très très longtemps, qui ont vécu un peu comme avec un club de foot, les belles années, les années un petit peu du fond du championnat, ensuite ça remonte, etc., mais qui développent un sentiment d'appartenance. Et moi je me suis toujours dit, c'est ces gens-là qui ne font partie d'aucune catégorie enviée, pour dire à quel point c'est nouveau, à quel point c'est du renouvellement, etc. Je me suis toujours dit, ils ont leur place est absolument là, entre un gamin qui vient pour la première fois, on a une convention avec la ville de Trappes, et donc on a de temps en temps du public dont on est sûr que c'est la première fois qu'ils viennent au théâtre, et la personne, toi, moi, qui en plus allons acheter un bouquin chez la librairie de la main, dont on pourrait dire « ça va, vous en avez vu assez, laissez votre place ». Ben, c'est quand même un peu notre passion et notre métier. Et voilà, le fait de réussir à cumuler tout ça, c'est pour ça que j'aime pas le terme de remplacement.
Ben oui, bien sûr. Il y a 7% des Françaises et des Français qui vont au théâtre. D'accord ? Après 50 ans de politique culturelle, on est passé en gros de 5 à 7%. Et peut-être qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Il y a 7% des gens qui vont à la piscine. On entend moins d'arguments des politiques qui disent bah, « Enfin, quand même, toutes ces piscines, à quoi ça sert ?» Franchement, tous ces gens qui ne vont pas à la piscine, qui payent pour ceux qui vont à la piscine, et puis si on regarde un petit peu sur le plan social, c'est très injuste aussi, ceux qui vont à la piscine et ceux qui ne vont pas à la piscine. Non, enfin, je ne sais pas, ce que je veux dire, c'est que ce sont des équipements culturels. Il y a un moment où il faut arrêter aussi de s'auto-flageller, parce que la haine de soi n'est pas bonne conseillère. Évidemment, on a tous été très marqués, je crois, l'été dernier, par le texte d'Ariane Mnouchkine, qui est un texte très fort, qui expliquait effectivement, qui mettait en cause l'entre-soi du théâtre public. Il est très fort, mais d'une certaine manière, il est très fort comme électrochoc, c'est-à-dire que c'est une alerte, c'est une vigilance, mais ça n'assigne aucune direction, en fait. Ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est quelque chose qui, politiquement, est devant nous, quand même. Hein. C'est-à-dire, soit on en parle de temps en temps, trouver un argument, enfin un récit qui permettrait d'envelopper un consentement général, mais bon, peut-être arrêter de se justifier.
Oui, ça ferait du bien. Oui, t'as raison, mais
Sinon, par le fait que, effectivement, vous en êtes à. Combien pour 98% de
95, ouais.
95% de remplissage. C'est-à-dire que le problème, effectivement, de la comédie française, c'est que tous ceux qui veulent y aller ne peuvent pas y aller. C'est ça, le problème de la comédie française.
Et puis le problème des... Enfin, on dit toujours que certaines salles sont vides. Alors ensuite, on fait un métier aussi. On peut être pertinent, un peu moins. De temps en temps, il y a des programmations qui sont bien. D'autres fois, on fait des erreurs, etc. Mais c'est pas que les gens désertent les salles. Les gens, ils sont là.
Oui.
Ils sont là. C'est un vrai... Et ils sont là, des gens qui arrivent, des jeunes...
Ils sont là avec ardeur aussi. Celles et ceux qui sont les habitués des salles de théâtre savent que combien... Après, effectivement, l'épidémie de Covid, effectivement, sont revenus des gens au théâtre. Malheureusement, on avait perdu beaucoup de diversité, mais on avait regagné pas mal de ferveur et d'intensité.
Hein. Mais ouais, ouais. Moi, j'en ai marre de me justifier effectivement sur le fait que ce serait réservé à je ne sais pas quelle couche de population. C'est réservé à certaines curiosités, oui. 7%. Bon, c'est bien 7% aussi.
Ah, c'est super. Ouais, c'est très bien.
Non, mais. On a connu des candidats qui ne faisaient pas 7%. C'est déjà une population. Mais, non, mais je veux dire, dans le sens où l'autoflagellation, je suis assez d'accord, je constate, j'y travaille, et je ne me berce pas d'illusions, que le public de la comédie française est extrêmement diversifié et que l'ensemble des offres tarifaires pour que tout le monde puisse y accéder fait que tout le monde y accède. Le truc de l'internose bourgeois, c'est faux. Et je vois des internos révolutionnaires qui sont tout aussi débiles sur leur resserrement.
Oui, voilà, mais ça, on a compris, Eric. Évidemment, vous avez beaucoup, je pense que ça a été dit avant, vous avez beaucoup travaillé à diversifier l'affiche. Et donc, il ne peut y avoir de diversité dans la salle que s'il y a une diversité au plateau. Voilà.
Oui, maintenant, pas que ça.
Oui, mais il y a aussi ça. Oui. Maintenant, effectivement, par exemple, la question du handicap se pose aujourd'hui.
Absolument.
Une question fondamentale, pas simplement d'accès, mais de représentation et de travail, tout simplement. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont devant nous. Ce sont des chantiers de démocratisation passionnants, je trouve. Mm-hmm. Et on doit continuer à les mettre en œuvre.
Mais on le fait.
Mais je sais.
Enfin, je veux dire, si c'est ça qui devait déclencher ou pas la critique, en fait, on le fait, ce travail-là.
Oui.
On ne fait pas semblant, c'est ça que j'aimerais dire, je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, de temps en temps, on soupçonne de cocher des cases parce qu'on a besoin de tel truc et tel... De la plupart des gens avec qui je travaille et des collègues que je peux observer dans les autres théâtres, c'est des missions qu'on fait, qui nous intéressent, qui sont absolument passionnantes. Comme tu dis, oui, ce qu'il y a en chantier là, sur le handicap notamment, et le retard que nous avons par rapport aux anglo-saxons, c'est un truc passionnant et ça va se faire. Ça va se faire, c'est sûr. Mais enfin, les salles sont pleines. Et on reproche donc que ça ne servirait à rien. Alors, il faut peut-être les faire d'autres salles. Je vous dis, il y a toujours un moment aussi où on peut... je ne sais pas comment ça peut se faire. Et que le politique trouve ça suffisamment important, au-delà de son poids électoral, on peut un jour espérer cette chose-là aussi. Parce que sans ça, oui, on continuera à batailler. Tu me disais tout à l'heure, donc tout va bien. Je dis oui, tout va mal et tout va bien, parce qu'on continue à travailler, à s'en tirer, à manger quelques couleuvres, en avalant 2-3 ballons de rugby, mais en même temps, ben, vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous venez au théâtre, on essaie de faire notre métier. Dans ce sens-là, on y arrive. On arrive quand... Et pour revenir au pouvoir de la tutelle, c'est l'exercice d'une certaine manière de ce non-pouvoir aidant que je pourrais reprocher, et pas du tout les intrusions qu'on pourrait avoir. Ce qui est possible, hein, d'ailleurs. Un sociétaire qui est nommé, c'est un décret signé par le ou la ministre. On a oublié cette chose-là parce qu'ils ne se permettent jamais de remettre en cause la nomination d'un sociétaire. Sur le papier, il le pourrait. Donc on pourrait arriver dans d'autres choses.
Le politique, en tout cas, a considéré, ça c'est certain, comme très important la nécessité de produire un récit national au moment des Jeux Olympiques. Hein. Donc est-ce que, Patrick, vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes emparé de cette responsabilité? Et comment, en considérant que le pouvoir est dans sa représentation, vous avez contribué à produire un discours qui a été perçu par l'immense majorité des téléspectateurs, dont j'étais, comme inclusif, apaisant, fédérateur, surtout après la dissolution de l'Assemblée nationale, et qui faisait peut-être un peu planer le spectre de la guerre civile. Il y a eu quelques semaines qui ont été quand même assez inquiétantes et difficiles dans le débat public et dans l'esprit de tous. Donc comment est-ce que vous avez imaginé de représenter les pouvoirs à l'œuvre dans notre société et contribuer à les faire advenir aussi par leur représentation?
Peut-être préciser, effectivement, pour répondre à votre question, que pour la première fois en 2024, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques étaient à parts égales organisés par la même équipe artistique. Mm-hmm. Donc en fait, c'est pas seulement la cérémonie d'ouverture, c'est les 4 cérémonies sur lesquelles nous avons travaillé, donc avec les co-auteurs Fanny Herrero, Leïla Slimani, Damien Gabriac et moi-même, que deuxièmement, volonté donc de donner à voir ce que vous dites, ce que vous appelez l'inclusivité. Et effectivement, les Jeux paralympiques, c'était vraiment très important de ce point de vue-là. Eh bien, elle se logeait dans une idée qui était une idée très simple, mais assez belle, c'est-à-dire les Jeux seront dans la ville. Voilà. Et moi, c'était depuis longtemps, en fait, plus longtemps que ça a été dit, je travaillais à ça en tant qu'historien de l'urbain et en tant qu'historien des images et du pouvoir des images. En un mot, on savait bien depuis 1992 que les Jeux Olympiques de Barcelone, que les Jeux Olympiques pouvaient être un opérateur de transformation urbaine, mais depuis 1992, on savait aussi que tout ce qu'on avait construit vieillissait, avait des problèmes d'usage, posait des problèmes environnementaux, enfin c'était à la fois bien et pas bien, ça transformait la ville, mais ça la gentrifiait. Bref, à partir de la troisième candidature de la ville, de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques, on décide de ne pas transformer la ville par les Jeux Olympiques, mais de transformer le regard qu'on a sur la ville. Donc, effectivement, c'est bien une question de représentation. Mais c'est une question de représentation agissante. Alors, si on a, on peut trouver un exemple, effectivement, de prise au sérieux, au fond, d'une politique symbolique dans ses effets réels, concrets, vivants, vibrants, ça pourrait être celui-là. Et puis, dire simplement un mot. C'est que lorsqu'on parle effectivement de l'état culturel ou d'une manière générale de la société française dans son rapport à la culture pour se plaindre effectivement, et on a, il y a de quoi se plaindre, d'une incompréhension voilà, de l'état, enfin des milieux culturels et artistiques et intellectuels et universitaires par l'état, bah, rappelons-nous quand même que une manifestation aussi énorme, voilà, dont le commanditaire n'est pas l'État, n'est même pas la ville. Il y a une sorte d'État dans l'État qui s'appelle le CIO, voilà, qui est autoproduit, qui est autofinancé, etc., etc., avec des mécènes. Bon. Mais enfin, où les pouvoirs politiques ont quand même quelque chose à dire. Eh bien, nous vivons dans un pays où la direction artistique de cette événement global a été confié à un jeune metteur en scène du théâtre public. On aurait pu faire autre chose, hein. On aurait pu demander à une boîte d'événementiel, comme on avait toujours fait. Ça aurait pu être un Super Bowl, voilà. Avec, et d'une certaine manière, c'était la solution de facilité, hein. Et Thomas Joly, voilà, c'est quelqu'un qui avait mis Thieste dans la cour d'honneur d'Avignon. C'est quelqu'un qui avait joué Henri V en 24 heures. C'est quelqu'un du théâtre public. Et puis d'un théâtre public qui n'est pas excluant, puisque par ailleurs, ça pouvait faire des grands succès pop comme Starmania. Donc voilà. Déjà, je dirais juste ça.
Oui.
Le casting même, et en plus, ce garçon, il a l'idée, pas l'idée, c'est-à-dire que la première fois qu'il le dit, évidemment qu'on lui dit non, mais il insiste, il dit, et moi je vais vouloir des auteurs et des autrices. On lui dit, mais pourquoi faire? Il n'y aura pas de texte. C'est que de la musique et de la danse. On ne veut rien dire de particulier. Il dit, si, si, on va dire quelque chose. Oui. Et pour qu'on le dise, il me faut des auteurs. Juste, modestement, je faisais partie de ce collectif. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que à tous les points de la prise de décision, l'aventure aurait pu s'arrêter. Ben, elle ne s'est pas arrêtée, on a vu ce qu'on a vu, on ne l'a pas inventé ni halluciné. Après, effectivement, le pouvoir de la représentation, il devient réellement efficace qu'à partir du moment, j'y reviens, où il est pensé collectivement dans un espace politique de réception. Donc, les jeux sont faits, rien ne va plus, sauf si on s'empare collectivement de ce qu'on a vu et qu'on dise ce qu'on en pense.
On va peut-être terminer avec les pouvoirs propres du théâtre, les pouvoirs propres de l'illusion sur le spectateur, puisque la fonction ultime du théâtre, bah, c'est de plaire, de divertir, d'envoûter par les pouvoirs de l'illusion, des pouvoirs un peu magiques, comme ceux du magicien Alcandre dans l'illusion comique de Corneille, qui réussit à nous faire prendre pour une vérité ce qu'on sait parfaitement bien être un artefact. Alors ça rejoint aussi un petit peu la question de la fameuse catharsis dont on ne sait pas trop ce que c'est, la catharsis dont le concept a été forgé par Aristote, qui voudrait que au spectacle de la tragédie, le spectateur mu par la pitié et la crainte soit purgé de ses passions, ressorte plus
plus pur, hein, purifié ou purgé de ses passions funestes. On ne sait pas du tout si ça marche comme ça. Saint Augustin, dans les Confessions, qui était un grand pécheur, enfin, qui explique que un de ses plus grands péchés, c'était d'aller au théâtre quand il était jeune, et qui considère que le catharsis d'Aristote, ça ne marche pas du tout, et qu'au contraire, le spectacle du théâtre est un spectacle qui nous fait aimer nos passions funestes et nous fait en jouir et les cultiver. Quant à Corneille, lui, bah, il ne sait pas trop ce qu'il faut en penser. Il considère que la catharsis, c'est finalement peut-être un alibi pour défendre la moralité du théâtre, mais est-ce que ça marche véritablement? Ça, on en sait rien. Donc ben, ça, je voulais vous demander peut-être à tous les deux, Eric, est-ce que toi tu as acquis des convictions sur les vertus du théâtre? Est-ce que tu crois qu'il soigne les maux de l'âme? Est-ce que tu sais ce que viennent chercher les spectateurs, ou est-ce que tu te le demandes toujours? Est-ce que tu crois qu'on ressort meilleur de la place, que quand on sort sur la place Colette, on est meilleur que quand on est entré dans l'établissement 2 heures avant?
J'ai une vision qui, pour le coup, est peut-être romantique. Moi-même, j'ai cette conviction que, et je crois en avoir déjà parlé, mais que les spectatrices et les spectateurs ne viennent pas pour ce qu'ils croient. Mmh. Et que s'il fallait faire un micro-trottoir, on n'aurait que des réponses finalement assez convenues sur « j'aime ça, ma grand-mère m'emmenait, j'adore cette actrice, ou là là, quelle pièce », etc. Je suis assez persuadé que le consentement à cet effort quand même paradoxal, hein, de faire un voyage pour venir s'enfermer dans une salle qui est dévouée à un voyage immobile, voilà, dans une boîte à chaussures cadrée par cour, jardin, face, lointain, on en connaît la géographie, il n'y a pas de mystère là-dessus, et encore une fois dans une pratique, même si elle est ancienne et répertoriée, mais le portable qui est éteint, l'incapacité de zapper ou de se lever parce qu'on est pris dans un rang, de ne pas pouvoir parler aussi, de respecter une concentration commune, ce qui ne sont pas des réflexes contemporains totalement acquis. Je suis assez persuadé que le pouvoir de l'instant présent partagé, pour le coup, il y a cette chose-là par rapport au cinéma. Moi, par exemple, j'ai jamais été sensible au fait de voir un film dans une salle, parce qu'il y aurait des gens autour de moi. Moi, je suis sensible dans une salle de théâtre. Il y a des gens autour de moi, mais il y a aussi des gens en face de moi qui partagent exactement le même temps, le même risque sur l'ennui, de ma réaction, de ce qui peut se passer, etc. Et cette chose-là, qui ne s'énonce pas facilement, j'appelle ça, moi, venir se renifler. Je pense que le spectacle lui-même est un prétexte à se renifler, à sentir ce qu'on a de commun ou ce qu'on a de pas commun, parce qu'on ne choisit pas la personne qui est à côté de soi. C'est une erreur, je trouve, au théâtre, de venir en bande. Moi, j'adore venir seul au théâtre, parce que je suis donc forcément avec des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas de ma génération, qui ne sont pas forcément de mon milieu, et je suis toujours très intrigué par leurs réactions. Ça m'intéresse autant que ce qui se passe en face. Et j'ai le sentiment, oui, quelquefois, qu'il y a une sorte d'une équipe qui organise un peu cette rencontre, qui sont les acteurs, la production, etc. Et puis une autre équipe plus nombreuse qui vient, et que dans ce creuset au milieu, là, cette espèce de rideau de fer, cette limite entre les deux, qui pourtant est très très définie, mais ne nous sert qu'à observer ce qui nous constitue. Et de pièce en pièce. Et rigoler comme un dingue à une pièce parce que Christian fait l'imbécile, ça fait aussi partie de cette chose-là. Ouais. Rire ensemble énormément. Quand Benjamin Laverne demande à tout le monde de faire les éléphants, les trucs et les machins dans la scène du sac, et qu'il y a des gens de 70 ans qui font... On se dit, c'est quand même très très chouette, cette chose-là, cette participation commune, le fait que ben, les gens sont dans l'ombre, donc ils peuvent aussi ne pas être devant leur écran, ils ne sont pas en train de se regarder, etc. Ça change un petit peu tout aussi. Voilà, ça a cette vertu-là, entre autres. Il y en a plein d'autres, mais ce qui fait le lit commun de tout ça, Il me semble que c'est cette expérience commune. Et bizarrement, ce n'est pas celle qu'on désigne, hein, mais je pense qu'elle en fait le lit.
Mmh. On pourrait peut-être conclure en évoquant le soulier de satin, peut-être sous deux aspects. D'une part, le geste, un peu le défi qui a été le tien, Eric, de programmer cette pièce, un fleuve, donc économiquement risqué, au moment même où on te coupait une partie très importante de ta subvention. Donc là, je pense qu'il y a un geste que peut-être Patrick appellerait politique, hein, dans le choix de cette programmation, qui n'a pas de rapport avec la thématique politique à l'intérieur de l'œuvre, hein, ou indirectement. Et puis Patrick, vous qui avez aimé ce spectacle, je le sais, peut-être pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait la bienveillance que vous y avez trouvée, par opposition peut-être aux abus de pouvoir dont on a parlé tout à l'heure, hein.
Ah, bienveillance, c'est très juste. C'est un mot qui est injustement dénigré, mais en fait, oui, bienveillance, ça me va, parce que moi, je suis au théâtre parce que ma grand-mère m'y amenait, parce que j'aime l'actrice, parce que cette pièce, oh là là, voilà. C'est-à-dire toutes les mauvaises raisons que tu
les as.
Les raisons du micro-trottoir, moi, je les ai. Et d'une certaine manière, on voit très bien comment le théâtre aujourd'hui, ce théâtre effectivement qui me semble aimable et politiquement nécessaire, il est politiquement nécessaire, pas forcément parce qu'il conjure notre violence, parce qu'il est cathartique. Bon, je pense qu'il est politiquement nécessaire pour des raisons que tu dis très justement, parce que c'est une manière de ne plus se sentir seul, de ne pas se sentir complètement démuni face à ce qui nous vient, et sur le théâtre, sur le rapport théâtre et pouvoir. Au fond, on pourrait dire que, avec le pouvoir comme avec l'amour, il n'y a pas 36 histoires qui peuvent nous arriver. C'est toujours le même répertoire. On aime, on n'aime plus, on est déçu, on est trahi, le roi devient un tyran, alors on s'en débarrasse, voilà. Donc on peut le voir avec Shakespeare, on peut le voir avec Claudel, on peut le voir avec Sophocle, d'une certaine manière, quel que soit le répertoire, eh bien, les rôles sont limités, et ce plaisir d'aller au théâtre et d'une certaine manière, de se tremper dans ces histoires précisément qui ont été dites mille fois, mais qui sont dites aujourd'hui, une fois pour toutes. Voilà. Il y a des théâtres, il y a des pièces qui se répètent. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'était sans répétition. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le répéter et ça ne se répéterait pas. C'était une fois pour toutes. Mais d'une certaine manière, toute représentation est une fois pour toutes. Elle est là, bel et bien. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est... Moi, je trouve que, voilà, il me semble, mais je suis nullement spécialiste et juste, voilà, spectateur, que quelque chose a changé quand même de plus bienveillant depuis le Covid, dans cette capacité qu'a le spectacle de faire communauté et de faire spectacle de son désir de communauté. Bon, on recevait, tu sais, Wajdi Mouawad ici cette année au Collège de France. Je profite pour dire que les admirables éditions du Collège de France viennent de publier sa leçon inaugurale aujourd'hui. Dans Racine carrée du verbe être, longue pièce, Wajdi Mouawad, le dernier acte, il parle pratiquement plus. Au lointain, il regarde, enfin, il est assis, et puis voilà, son rôle fait qu'il a disparu. Et je lui demandais, mais pourquoi ? Il dit, parce que je veux voir. Je veux voir ce que ça fait. Ça fait 5 heures qu'on travaille, au fond, à faire communauté. Donc je veux voir ce qui se passe. Bon. Et j'ai eu cette impression au soulier de Satin. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Alors d'abord, c'était la fête, une fête bienveillante, où on cherchait pas à nous mettre dans l'inconfort, où on prenait soin de nous, où il y avait des entr'actes, et puis des entr'actes dans les entr'actes, et puis dans chaque acte, on nous amusait, on nous faisait danser, on nous faisait faire des trucs, on était, que tout le monde soit bien conscient qu'on était là, effectivement, pour la fête. Alors, bien sûr, je parle pas de la réussite esthétique de ta mise en scène, la communauté puissante et joyeuse et entraînante de la troupe, des comédiennes et des comédiens, mais voilà, il y avait ça, et qui faisait communauté. Et à plusieurs reprises dans la pièce, on est au spectacle de la joie d'être ensemble, de la troupe, qui nous dit quelque chose à plein de niveaux. Merci d'être là, c'était bien, c'était beau, à bientôt. C'est une histoire qui se termine, voilà, c'est la tienne, il te l'offre et tu leur offres. Mmh. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs à plusieurs moments, la salle s'éclairait, et c'était pas simplement la communauté de la troupe, mais la communauté des spectatrices et des spectateurs, et ça, c'est l'effet politique mmh. du théâtre.
Oui.
Qui est le contraire, effectivement, de ce que j'appelais tout à l'heure l'éclat unanime d'un éblouissement, voilà, de frappe, qui est voilà, enveloppant.
Mmh. Je crois l'avoir déjà raconté. Donc, j'avais évidemment le souci, alors cette phrase sur la joie, c'est la joie seule et non l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. J'ai dit dès le début aux actrices ou aux acteurs, on va s'accrocher à cette chose-là, parce que si ça n'est pas joyeux, on va perdre les gens. Il faut qu'on les mette en joie dès le début, parce qu'on sait à quel point ils vont regretter d'être venus dès le début, en se disant « Pourquoi j'ai accepté cette invitation ?» voilà, donc il faut les saisir dès le début. Et puis oui, j'ai eu... c'est peut-être ça que tu ressens comme étant politique, et je veux bien l'entendre. Il y a une manière de réfléchir avec les gens, presque dans le sens de la réflexion, même du miroir. À savoir, je suppose que les gens sont exactement au même niveau d'intelligence et de conscience de ce dont Claudel parle. Mmh. Et que donc l'indication étant d'essayer de poser un regard d'entendement avec les gens et pas un regard de sachant face à des gens qui doivent écouter. Ce qui change tout, et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec les comédiennes et les comédiens, et c'est une indication de jeu qui est subtile pour le coup, mais qui nous a vachement intéressés. Vous avez une manière de vous adresser aux gens en leur faisant la leçon. Et donc vous les transformez en élèves à un âge où ils ne le sont plus du tout, donc ça les contraint un peu, généralement...
En sujet.
Voilà, ou en
comme
sujet.
Comme on aurait dit
absolument.
À la cour de Louis XIV. Hein.
Et il y a une autre manière de réfléchir avec les gens en leur disant « Je sais que vous savez absolument ce qui est raconté, on en a une conscience et une intelligence commune, simplement écoutez à quel point c'est bien dit. » ce qui change tout, c'est comme une couche d'avant, et on a énormément travaillé là-dessus, et je disais à la troupe, ce qui est une belle indication au théâtre, ne leur lâche jamais la main. C'est-à-dire là on les a gagnés parce que oui, il y a des manières hein, au théâtre de faire un chant commun, c'est immédiatement bouleversant, c'est beau, c'est généreux, etc. Donc on gagne du crédit, j'allais dire. Et ce crédit-là, il y a une manière malheureusement de le perdre ou alors de le cultiver. Et tout le temps, ce qui est un respect d'ailleurs, c'est une politesse, mais on peut l'oublier. La performance de l'acteur souvent lui fait oublier le public. C'est tout bon acteur à la 10e représentation, ce qui fait être inaudible. Parce qu'il est tellement doué qu'il va aller chercher les sens partout. Et il va commencer, comme en musique, à mettre des tris, des appoggiatures absolument partout. Et que tout d'un coup, le simple petit Papa Noël devient, on ne reconnaît plus l'air, tellement il est brillant tout d'un coup. Et qu'il y a toujours, au bout de 10 jours, il faut toujours redire aux acteurs ces petits Papa Noël qu'on raconte. Et qu'il y a un grand art à ne pas utiliser le sien d'une certaine manière pour qu'on soit bien sûr que c'est ça qui passe et qui est compris. Donc cette phrase-là, ne lâchez pas la main des spectateurs, on se le dit pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est un peu une règle de théâtre en même temps, oui. Ça devrait...
Ouais. Eric, peut-être pour nous faire écouter à quel point c'est bien dit et ne pas nous lâcher la main, est-ce que tu veux bien nous lire le prologue du Soulier de Satin, qui est une...
Avec ces phrases
texte,
tellement belles.
Un texte merveilleux sur les pouvoirs de l'auteur, donc tous ces pouvoirs, hein, celui de l'auteur, du metteur en scène, du décorateur,
de l'acteur, du public et de l'illusion.
C'est donc la préface de Paul Claudel. Et c'est presque d'ailleurs ces phrases-là qui m'ont encouragé à monter ce spectacle comme une espèce de licence absolue. Comme après tout, il n'y a pas impossibilité complète que la pièce soit jouée un jour ou l'autre, d'ici 20, 10 ou 20 ans, totalement ou en partie. Autant commencer par ces quelques directions scéniques. Il est essentiel que les tableaux se suivent sans la moindre interruption. Dans le fond, la toile la plus négligemment barbouillée ou aucune suffit. Les machinistes feront quelques aménagements nécessaires sous les yeux même du public pendant que l'action suit son cours. Au besoin, rien n'empêchera les artistes de donner un coup de main. Les acteurs de chaque scène apparaîtront avant que ceux de la scène précédente aient fini de parler et se livreront aussitôt entre eux à leur petit travail préparatoire. Les indications de scène, quand on y pensera et que cela ne gênera pas le mouvement, seront ou bien affichées ou lues par le régisseur ou les acteurs eux-mêmes qui tireront de leur poche ou se passeront de l'un à l'autre les papiers nécessaires. S'ils se trompent, ça fait rien. Un bout de, je peux le dire ici, un bout de corde qui pend, une toile de fond mal tirée laissant apparaître un mur blanc devant lequel passe et repasse le personnel sera du meilleur effet. Il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme. Avec des réussites si possible, de temps en temps, car même dans le désordre, il faut évidemment éviter la monotonie. L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination. Je suppose que ma pièce soit jouée, par exemple, un jour de Mardi Gras à 4 heures de l'après-midi. Il fout ce Claudel. Je rêve une grande salle chauffée par un spectacle précédent, que le public envahit et que remplissent les conversations. Par les portes battantes, on entend le tapage sourd d'un orchestre bien nourri qui fonctionne dans le foyer. Un autre petit orchestre nasillard dans la salle s'amuse à imiter les bruits du public en les conduisant et en leur donnant peu à peu une espèce de rythme et de figure. Apparaît sur le proscenium, devant le rideau baissé, l'annoncier. C'est un solide gaillard, barbu, et qui a emprunté au plus attendu Velázquez ce feutre à plumes, cette canne sous son bras et ce ceinturon qu'il arrive péniblement à boutonner. Il essaie de parler, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche et pendant que le public se livre à un énorme tumulte préparatoire, il est interrompu par un coup de cymbale, une clochette niaise, un tri strident du fifre, une réflexion narquoise du basson, une espièglerie d'ocarina, un raw de saxophone. Peu à peu tout se tasse, le silence se fait, on n'entend plus que la grosse caisse qui fait patiemment poum, 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 pareil aux doigts résignés de Madame Barthet, battant la table en cadence pendant qu'elle subit les reproches de Monsieur le Comte. Au-dessous, roulement pianissimo de tambour avec des fortés de temps en temps, jusqu'à ce que le public ait fait peu à peu silence. L'annoncier, un papier à la main, tapant fortement le sol avec sa canne, annonce « le soulier de satin » ou le pire n'est pas toujours sûr, action espagnole en 4 journées.
Partez pas tout de suite. Cher Eric, cher Patrick, cher Florence, nous avons vécu des rencontres passionnantes autour de nos deux institutions qui ont montré les liens entre la grande sœur qui est le Collège de France, la petite sœur seulement au niveau chronologique, qui est la comédie. Vous avez commencé au mois de janvier avec les 6 coups de brigadier qui ont fait trembler l'estrade. Et nous avons pu vivre, je pense, quand même des rencontres passionnantes qui ont montré les liens, qui ont aussi permis à mélanger les publics. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. On a parlé beaucoup de public. Tout à l'heure encore, et nous avons peut-être eu parfois l'impression que ces deux publics très différents, mais ils ne sont pas si différents. Il faut que les publics se rencontrent, se mélangent, se découvrent, et vous avez magnifiquement réussi à nous faire vivre ce mélange, ces rencontres, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter ce soir, bien que c'est la dernière de nos rencontres. Je voudrais remercier donc à vous, le public, les professeurs du Collège de France, Eric Ruff surtout avec toute son équipe, les différents journalistes qui ont permis en effet d'animer ces réunions, parfois aussi des professeurs qui ont joué le rôle de journalistes. ça a plus ou moins bien marché, mais dans l'ensemble, je crois que vous étiez content quand même, j'espère. Je voudrais remercier aussi la Fondation Hugo et sa directrice Florence Terrasse qui ont vraiment œuvré à que ces rencontres ont pu se faire. Et je crois que c'est le début d'une belle histoire. Donc, revenez au Collège de France, venez évidemment à la Comédie Française et passez une magnifique soirée. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.